Et bonjour à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Hier, j'ai ri avec l'histoire du pouf donc chez le club échangiste. Aujourd'hui, j'ai envie de pleurer avec le témoignage de cette femme qui a perdu son père à Auschwitz. Je trouvais qu'il y avait une grande dame sur les ondes de France Inter. C'est aussi beau pour ça que je voulais appeler. Enfin, merci à vous tous. Continuez de nous faire rire, pleurer ou rire. Pleurer de rire aussi avec l'ami Serge Dassault. Voilà, merci encore. Romuald de Bordeaux.
Oui, bonjour, je suis Michel du Rincy dans le 93 et je voudrais dire que je me marre doucement quand j'entends des gens qui sont choqués par des reportages sur l'amour échangiste, mais qui ne sont pas choqués quand à tous les bulletins d'infos, y compris l'après-midi, là où les petits-enfants peuvent écouter, on nous parle de toujours centaines de morts dues aux guerres pour faire plus de fric dans le monde. Ça, ça choque personne, alors que les gens aient envie de baiser, au moins pendant ce temps-là, ils font pas la guerre et ils baissent comme ils veulent, quoi. Mais ils font pas de mort en attendant, ou alors peut-être cardiaque, mais c'est pas bien grave, quoi. Ils meurent dans le plaisir, au moins. Voilà.
Oui, bonjour. Voilà, j'ai un problème d'échelle de valeur au sujet du raz-de-marée qui s'est produit en Asie. Si je prends l'aide américaine qui se monte à 35 millions de dollars, je ne sais pas combien se monte la guerre en Irak, mais c'est à plusieurs centaines de milliards de dollars. Si je prends l'aide française, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres, mais tout ce que je me souviens, c'est que je crois que dernièrement, Canal Plus a passé un contrat pour la retransmission des droits du foot en France. Alors, uniquement dans un pays, les droits du foot. Et ces droits se montaient à 600 millions d'euros, soit environ 750 millions de dollars, si on parle dollars. Voilà, c'était un problème d'échelle de valeur de Jean-Luc de Saint-Marcellin dans l'Isère. Au revoir et bonne journée à tous.
Eh oui, bonne question. Quelle est notre valeur aujourd'hui, au cours du jour? Quelle est la valeur du français au cours de la bourse de la vie? Comme le CAC 40 ou le Dow Jones, le tsunami nous permet en effet d'évaluer la valeur des uns et des autres. Quelle est la valeur de l'Indonésien de Sumatra par rapport à l'habitant du Tamil Nadu? Quelle est la valeur de l'habitant des Maldives par rapport au Sri Lankais du Sud? Quelle est la valeur de la petite Thaïlandaise de Phuket par rapport au Suédois de Stockholm? Combien nous valons? 10 000 fois plus, 100 000 fois plus. Il y a ceux qui ont une assurance et ceux qui n'en ont pas. Il y a les avec cercueil et les sans cercueil, les avec cellules d'aide psychologique et les sans cellules d'aide psychologique. Autant d'éléments qui vous permettent d'évaluer votre position, le taux de votre valeur sur l'échelle de Richter d'un monde sauvagement inégalitaire, ce que, entre autres, nous révèle cette catastrophe. Rappelons que la défense aux États-Unis coûte 1 milliard de dollars chaque jour, sans compter la guerre en Irak. La guerre en Irak, depuis le début, en est à, aujourd'hui même, à 157 milliards de dollars. C'est dire si les aides promises à son de trompe ne sont rien à côté de ces sommes astronomique. Voilà quelques réflexions en cette avant-veille de fin d'année. Aujourd'hui, alors, comme disait un auditeur, les coincés du cul, il y a un auditeur qui souhaitait bonne année aux coincés du cul, et ben ceux-là vont être ravis, ça va être leur fête dans cette petite émission que nous vous proposons aujourd'hui, une rediffusion, une nouvelle diffusion d'une émission que nous avons aimée et que vous avez aimée. Après quelques messages, suite à l'émission d'hier qui avait pour thème les relations entre les papas et leurs filles.
Je viens d'écouter l'histoire des photos pour le papa. J'aurais aimé vous envoyer une photo de mon papa avec ses filles sur une bicyclette. Pendant la guerre, il faisait 40 km pour aller les voir pendant qu'elles étaient à l'abri des bombes. Et c'était un papa merveilleux. Il y a 10 ans qu'il est parti. Je le pleurerai toute ma vie. Je suis pas toujours d'accord, mais j'aime bien. Vous me permettez de penser différemment des fois. Et c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui vous secoue les puces. Au revoir et passez de bonnes fêtes et je vous souhaite à tous une bonne année.
C'est Nadine. Je voulais vous remercier de votre émission aujourd'hui sur les rapports père-fille.
Ça fait 728 jours que j'ai pas revu mon père. Il est décédé. De son vivant, le cordon ombilical entre nous deux n'était pas coupé. Il est toujours présent. Je crois que jamais rien ne le coupera. Merci beaucoup. Au revoir.
C'est Edith de Cheptainville. Je voulais réagir par rapport à l'émission Père-Fille que j'ai entendue ce soir. J'ai entendu des témoignages qui m'ont bouleversée et je voulais dire à toutes ces femmes qui n'ont pas eu la chance, le bonheur de connaître leur père, que s'il reste un tout petit peu de chance pour qu'elles le rencontrent avant que ce soit trop tard, il faut qu'elles l'attendent, cette chance, parce que c'est un père, c'est de la tendresse et de l'autorité mélangée, c'est des moments de bonheur extraordinaire quand on a la chance, comme moi, d'avoir encore le sien. Moi, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Qu'elle passe pas à côté de quelque chose, quoi. Il faut peut-être savoir pardonner. Je sais que j'ai bonne figure, hein. Moi, j'ai pas à m'en plaindre, donc c'est facile pour moi. Voilà, je vous dis bonne année avant la fin 2004. Et puis, merci beaucoup pour toutes vos émissions. À bientôt.
Mon père, le petit homme, m'a donné une leçon de vie. D'une boîte à lunettes, il a tiré un violon, un abécédaire, le portrait de sa mère, un chapelet, un grain de fantaisie, une pinte de folie. Merci, mon père.
J'ai entendu l'émission de relation père-fille hier et qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai moi-même une relation très forte avec mon père qui m'a élevée seule et que j'ai perdue il y a 7 ans. Et voilà, ça a été une grosse souffrance et je voulais juste réagir par rapport au psychanalyste. Je voulais donc dire qu'un analyste... aide à parler de nos souffrances, à tenter de les comprendre et à essayer de vivre avec. Mais en aucun cas ne peut les faire disparaître et je pense qu'aucun analyste n'a cette prétention. Et voilà, moi j'ai entrepris un travail il y a 2 ans du fait de cette difficulté à faire le deuil de mon père. Et en 2 ans, je vois déjà l'amélioration et le bonheur que ça peut m'apporter. Donc je pense que la colère envers les psychanalystes que beaucoup de gens éprouvent traduit certainement une souffrance et une incapacité à se faire aider de quelqu'un. Et l'analyste est vraiment la personne qui peut aider quand les souffrances sont trop difficiles. Un proche ne peut pas le faire. Voilà, donc je vous remercie et au revoir.
C'est une chose assez urgente que je veux signaler aujourd'hui. Voilà, à propos des intermittents du spectacle qui se sont retrouvés sans rien après la signature du dernier statut par le MEDEF et certaines organisations syndicales, un fonds spécial a été débloqué pour aider ceux qui se retrouvaient absolument sans rien. Ce fonds spécial est distribué, mais malheureusement les gens ne sont pas avertis, et il est distribué jusqu'au 31 décembre. Donc il reste encore demain et après-demain. Il faut que les intermittents qui ne touchent rien passent à leur ACEDIC, à leur antenne ACEDIC, se fassent inscrire, enfin fassent faire un dossier en demandant le fonds spécial, en expliquant qu'ils n'ont plus rien, et leurs droits recommenceront, disons, voilà, pendant quelques mois, mais il faut que ce soit fait avant le 31 décembre. Je suis très très agitée parce que c'est tellement urgent. Il reste 2 jours pour aller s'inscrire. Je crois que ce serait très très bien si vous passiez le message. Ça me semble vraiment très très utile.
Ici le collectif de soutien aux sans-papiers du Havre. Nous vous contactons pour vous informer suite à un message que nous avions passé en septembre pour vous signaler un rassemblement devant au Havre, devant les affaires maritimes, puisqu'il y avait 1 an que 3 Guinéens avaient été morts dans la Seine auprès du Havre et étaient à la morgue du Havre. Un des Guinéens concernés a été enterré aujourd'hui même en fin de matinée à Gravenchon, donc la commune sur le territoire de la commune sur les berges qu'il avait été retrouvé. Il a été enterré sous X puisque son identité est pas connue, ni sa date de naissance, etc. Et les 2 autres Guinéens qui sont maintenant depuis le 29 septembre 2003 morts le 29 septembre 2003 sont toujours à la morgue du Havre et leur situation est toujours dans cet état, c'est-à-dire que bon, une dizaine de personnes au titre du collectif de soutien ont assisté à cette inhumation qui s'est fait comme ça, quoi. Donc, merci, au revoir.
c'est Jacqueline Imbert, de Marcenais en Gironde. Ben voilà, cette année, ça finit deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. Une bonne, c'est que enfin, Douce Blasie est dans un hôpital psychiatrique. La mauvaise, c'est Mattei, qui est directeur de la Croix-Rouge, président. Alors là, pour les peuples qui sont dans le malheur, là, rappelons que sous le... Quand Mattei était ministre, il y a eu quand même un raz-de-marée qui a fait, caniculaire, qui a fait plus de 15 000 morts. Alors peut-être va-t-il envoyer à ces populations désolées des brumisateurs. Bon, voilà. Allez, alors, une très bonne fin d'année et une très bonne année 2005 à toute l'équipe. Au revoir.
Dans cette grotte obscure, incessamment, s'allume un feu plus violent que celui de Vulcain.
Dans cette grotte obscure, incessamment s'allume un feu plus violent que celui de Vulcain.
Et c'est là qu'on se crée, sur une main en plume, l'écu en bondissant frappe le genre humain.
Et c'est là qu'on se crée, sur une molle en plume, l'écu en bondissant frappe le genre humain.
Un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour.
Flight number 2, arriving from New York.
Te voici devant la psyché. Où toute la chambre s'afflige. Tu balances la souple tige d'un calice plein de péché. Maintenant que te voilà prise aux saveurs du fruit que tu mords, tu te caresses sans remords, toute pâle de gourmandise. La volupté que tu poursuis t'abuse de son artifice, pendant qu'au gré d'un vin délice vont tes soupirs évanouis. Extrait de l'appartement des jeunes filles de Roger Allard, 1914.
Phallus en l'air, coudrier nain. Les enfants du Péloponnèse ont de jolis palmiers en zinc pour enculer les Polonaises. Guillaume Apollinaire ou Alfred Jarry.
Lorsqu'une femme maligne de son corps forme un cerceau, fouteur, glissez votre pine dans la bonde du conneau. Qu'un autre la foute en bouche et la garce au même instant reçoit une double douche. Rien n'est plus divertissant. Extrait 2. L'art de foutre en 40 manières, 1789.
Retirez-vous, censeurs atrabilières, fuyez des veaux hypocrites ou fous, prunudes, guenons et vous, vieilles mégères, nos doux transports ne sont point faits pour vous. Ainsi s'adressait Mirabeau au peuple puritain, alors qu'il était en compagnie de la belle Sophie Monnier. Et ça peut nous servir de sésame pour cette heure que nous allons passer, vous avez compris, autour d'un livre absolument formidable de Jean-Paul Goujon, un choix de poésie seulement, hein, c'est pas toute la littérature, ce serait énorme, mais de la poésie érotique française. Alors, c'est un vaste sujet, c'est un merveilleux sujet, c'est un sujet mystérieux. Et Robert Desnos, qui en 1923 publiait un ouvrage de réflexion sur l'érotisme, disait aussi bien quel homme préoccupé de l'infini, dans le temps et l'espace, n'a pas construit cette érotique dans le secret de son âme, quel homme soucieux de poésie, inquiet des mystères contingents ou éloignés, n'aime pas à se retirer dans cette retraite spirituelle où l'amour est à la fois pur et licencieux dans l'absolu. Voilà, il n'y aurait plus qu'à tirer le rideau, ou plutôt le verrou. Oui. Le verrou, vous pensez à Fragonard, vous pensez au hasard heureux de l'escarpolette. Eh bien, vous pensez juste, et vous pensez, là, on peut peut-être souligner un trait de notre culture, la française, en matière d'érotisme. Nous avons un art érotique particulier, non pas que nous soyons en cela les premiers, mais nous avons quelque chose de particulier qui nous vient de probablement des Lumières du XVIIIe siècle et d'un Fragonard par exemple qui pourrait nous avoir peint tout le décor de cette émission. C'est jusqu'à 18h. C'est là-bas si j'y suis, ça n'est pas la coulée douce, c'est l'anthologie de la poésie érotique française.
Dévaste-moi, essouffle-moi, envahis-moi, pille-moi, dépense-moi, gaspille-moi. Saccage-moi, dilapide-moi, lapide-moi, érape-moi, liquide-moi, émiette-moi. Ravage-moi, et presse-moi, et puis broie-moi, et puis noie-moi, et puis bois-moi, et caille-moi. Colonise-moi, piétine-moi, déglutis-moi, extermine-moi, ravage-moi, délabre-moi. Ratisse-moi, corrode-moi, démantèle-moi, désintègre-moi, massacre-moi, écrabouille-moi.
De sa bouche, il cherchait une source tarie, dont la mousse arrêtait le cours interrompu, et sa lèvre mouillait une lèvre fleurie pour étancher sa soif en son cœur non repu. D'une tige éperdue, aspirant la corolle, farouche, elle absorbait chaque tressaillement, consacrant son désir à quelque course folle dont le but est l'étrange ivresse d'un moment. Le silence imprimait de plaintives minutes, leur corps ne comptait plus les successives chutes vers ce gouffre où notre innocence s'immola. Soudain, l'ombre exila la lumière éblouie. Et, dans un même élan, la fleur épanouie répandit sa rosée et la source coula. Jacques Brindejon-Offenbach, 1927.
En voyant sa dame au matin près du feu où elle se lasse, où est le cœur que jasse lasse de regarder son beau tétin, Alors se dit, main bon tatin, quand on s'entretient face à face en voyant sa dame au matin, on a un beau corset de satin. Quand on la tient et on l'embrasse, c'est ce que tout ennui efface. Maugré faux d'Angier le matin, en voyant sa dame au matin. Voilà un petit poème anonyme de 1480. Et on a l'impression de voir un instantané d'aujourd'hui, de nos vies intimes, évidemment, il y a des siècles. Voilà, c'était les mêmes regards, c'était les mêmes interrogations, c'était les mêmes attirances, c'était les mêmes mystères, c'était le même infracassable noyau de nuit dont parlait André Breton, qui nous hante, qui hante notre commune humanité depuis si longtemps. Et dans ce livre, et ben voilà, ça se donne encore à nouveau à voir et à partager et à vibrer, et avec ce plaisir évidemment de l'interdit, ce plaisir de l'interdit ou ce plaisir de subvertir l'interdit n'est plus ce qu'il était. On a connu des moments où c'était vraiment, il fallait lutter contre une censure. Aujourd'hui, on est plus dans un plaisir, dans une délectation. Ce combat est tant accompli, mais évidemment, rien n'est jamais acquis. On nous l'a dit et on nous l'a redit. Donc, rencontre avec Jean-Paul Goujon, l'auteur de cette anthologie de la poésie érotique française.
Est-ce que tu sais ce que c'est ça ? Est-ce que tu sais ce que c'est ça ?
Retirez-vous, censeurs atrabiliaires, fuyez des veaux hypocrites ou fous, prumus de guenons et vous, vieilles mégères, nos doux transports ne sont pas faits pour vous. Voilà, c'est attribué au fougueux Mirabeau, dites-vous, Jean-Paul Goujon, et c'est un avertissement aux auditeurs et censeurs atrabiliaires qui pourraient accidentellement être à l'écoute. De quoi nous allons parler ? Eh bien, nous allons parler de votre bouquin, une anthologie de la poésie érotique française. Est-ce que, Jean-Paul, il y a vraiment beaucoup d'auditeurs qui vont être scandalisés aujourd'hui par ce que nous allons entendre ?
Je ne sais pas, peut-être un certain nombre d'entre eux demandent-ils à être scandalisés aussi.
Oui, oui.
Mais
je veux dire par là, est-ce qu'un bouquin comme celui-là, c'est énorme, il y a quoi, il y a 1000 poèmes ?
Il y a, oui, 900 ou 1000 poèmes, en effet.
Poèmes, chansons, etc. Est-ce que ça aurait pu être publié il y a 30 ou 40 ans dans notre bel hexagone, comme ça, normalement, comme un livre parmi d'autres, ou presque ?
Non, ça n'aurait pas été un livre parmi d'autres. Je pense que certains textes auraient posé problème. Oui. Parce qu'on admet la poésie galante, mais disons la poésie érotique...
Vous savez à quoi vous allez vous exposer, c'est qu'on vous demande une définition de l'érotisme.
Ah ben c'est très simple, c'est un grand mystère.
Voilà, c'est la réponse.
Oui. 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 C'est quelque chose qui est justement très presque incongru dans le monde où on vit, parce que le mystère a été balayé de toutes les avenues. On essaye de tout rationaliser, puis on se trouve en présence de quelque chose qui fait appel à d'autres choses que la raison, la logique, ou ne parlons pas du profit, du capital et de tout ça.
Il y a 30 ou 40 ans, ça a été une bataille, on l'oublie aujourd'hui, tant mieux d'ailleurs, mais une bataille héroïque que celle d'un certain nombre d'intellectuels, d'éditeurs qui se sont battus pour qu'un certain nombre de textes et d'auteurs soient portés à la connaissance de tous. Hein. Je pense à Beauvert.
À Beauvert avec l'affaire Sade, qui remonte, je crois, déjà aux années 50. Et puis il y a eu Régine Deforge qui, on l'oublie, parce qu'elle a beaucoup de succès en tant que romancière, etc., mais a été en butte à une véritable déluge de condamnations.
L'Osfeld,
bon, qui est mort, Losfeld. Mais qui a endetté comme une mule, comme il disait. c'était un peu des pionniers. Jean-Jacques Pauvert est toujours parmi nous et il vient de sortir ses mémoires, comme vous le savez, un tome. Effectivement, alors 30 ans, 40 ans, c'est pas très loin. Vous avez vu il y a quelques mois, je crois, l'ancien ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin est mort. Il s'était illustré notamment dans des interdictions.
Alors, vous nous dites dans la préface, ce que c'est cette poésie, hein. C'est pas toute la littérature érotique, parce qu'il faudrait, il faudrait une bibliothèque entière. Ce serait un enfer, d'ailleurs. On appelle ça un enfer. Ça existe déjà.
Ça existe à la Bibliothèque nationale.
Qu'est-ce que ça raconte sur nous? Qu'est-ce que la poésie érotique dit d'une société? Qu'est-ce qu'elle veut cacher?
Ce qu'elle veut cacher est le privé, la sphère du privé, de l'intime, bon, qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais on n'a pas l'impression que ça soit dans toutes les directions. Et ça révèle, ou ça exprime plutôt une chose, mais qui en fait est assez naturelle, mais qui a été écartée pendant pas mal de siècles de la littérature. C'est d'ailleurs très curieux à voir historiquement, parce que la poésie érotique était admise comme un genre, on peut dire jusqu'à l'époque de Louis XIV. Alors là, il y a eu une censure très forte, parce qu'elle était liée à la libre pensée aussi, à toute une philosophie de l'existence qui, disons, refusait la religion, le péché originel, l'adultère, etc.
Est-ce que sans ces interdits, cette poésie existerait?
Non, parce que, comme disait je ne sais plus qui, ce qui est admirable dans la censure, c'est qu'elle fait croire qu'il y a des livres dangereux.
Ouais, c'est ça.
N'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, il y a toujours une production de poésie érotique, mais je ne sais pas si est-ce qu'elle naît de liberté? Je ne dis pas qu'il faille une certaine contrainte, mais enfin, s'il y a tout un jeu.
Si c'est pas sous le manteau, ça perd sa force.
Oui, vous comprenez, un livre que vous trouvez à la bibliothèque de la gare avant de prendre le TGV n'aura pas quand même le même impact qu'un livre sous le manteau.
Donc il faudrait que votre livre soit interdit pour bien faire.
Ah, ça serait son destin, oui.
Oui, ce serait pas mal.
Ça serait pas mal. Ça.
Lime-moi mon cadenas, serrurier de Sutère. Lime-moi mon cadenas. Ne crains pas d'en trop faire, ne me ménage pas. Lime-moi. On me fourrait au couvent, par ordre de ma mère. On me fourrait au couvent. Mais mon coup pour Sutère en décide autrement. On me fout. On me fourrait au couvent. Vite, au combat, chevalier. Hortense te défie. Vite, au combat, chevalier. Mais le chevalier plie. Hortense a beau crier. Vite au con. Vite au combat, chevalier.
Mon assauté, mon doux relot, mon doux ciné, mon amoureux, mon mignon, mon gentil falot, ne soyez jamais souffreteux. Allons-nous en jouer, nous deux. Ne vivez plus sur le commun. Frappez fort, soyez courageux. Je vous rendrai deux coups pour un. N'épargnez point votre maillot et ne soyez jamais honteux. Comme la taupe et le mulot, fouillant la terre d'entour d'eux, fouillez et ne soyez piteux. Comme une anguille de melun, glissez-vous au fin fond du creux. Je vous rendrai deux coups pour un. Or, fouillez bien au fond du pot, car le brouet est savoureux. Vous y savez votre tripot. Pour y bien jouer en tout lieu, or, laissez tous vos autres jeux sans vous trop tenir à aucun. Forgez, frappez, soyez joyeux. Je vous rendrai deux coups pour un. Prince, prince, j'ai le con précieux, doux et sucre, mais il est brun. Frappez un coup aventureux, je vous rendrai deux coups pour un. Anonyme, 1532.
Poésie érotique, pour moi, il y a deux termes, poésie et érotique. J'ai essayé quand même aussi de ne pas trop oublier la poésie, de prendre des pièces qui ne soient pas seulement érotiques, parce que, bon, ça serait uniquement des choses hard, disons. Et dans la poésie elle-même, j'ai essayé de laisser une certaine place, un certain humour, parce que je trouve très intéressant l'alliance de l'humour, de l'ironie, avec l'érotisme. Ça donne une charge encore plus forte, un piquant encore plus fort à l'érotisme, je crois.
Vous avez découpé le bouquin en chapitres, sociologie, solitude, politique, sentiment de famille, hétérodoxe, bizarrerie et raffinement. vague, une vague de rêve. Qu'est-ce que c'est que cette construction?
Ben, cette construction avait pour but...
Je rigole parce que je tombe sur ce petit poème
de Gautier.
De Théophile Gautier, qui nous dit, qui nous parle du bonheur parfait, que les chiens sont heureux dans leur humeur badine, ils se sucent lapine, ils s'enculent entre eux, que les chiens sont heureux.
Oui, oui.
C'est une belle réflexion. C'est
une belle réflexion de Gautier.
Quelqu'un qui aime les bêtes.
Qui aime les bêtes, en plus. Oui, alors, ce que j'ai voulu, c'est me démarquer un peu des anthologies habituelles, bon, qu'il y a eu avant, et essayer d'éviter un peu la séquence chronologique, c'est-à-dire bon l'érotisme au Moyen-Âge, l'érotisme sous la Renaissance, l'érotisme, etc. C'est un peu fatigant, c'est un peu monotone, et il me semble que cette division par petits chapitres thématiques, bon, il y a oui l'esprit des dames, il y a un chapitre sur les cocus, une autre sur la vérole, sur le mariage, etc. Est plus propre à rendre sensible la variété de la poésie érotique, qui n'est pas uniquement, comme on croit, la simple répétition de mots ou de situations obscènes. Il y a des choses assez énormes, assez surréalistes, presque, pourrait-on dire.
Et beaucoup de choses très touchantes. Hein.
Oui, également.
C'est toujours touchant de voir un poème du 15e siècle ou du 16e siècle qu'on aurait pu écrire hier, parce que la chose qu'on faisait au 16e siècle ou aujourd'hui, c'est la même, poussée par les mêmes élans.
On suppose, oui, oui.
Oui, alors, il y a beaucoup d'auteurs qu'on connaît, hein. Il y a quand même pas mal d'écrivains.
Oui,
je tombe sur Raymond Radiguet, oui. Il y a pas mal d'Apollinaire, il y a du Baudelaire, là je vois Voltaire, je vois Verlaine, Théophile Gautier, on en a parlé, Glatigny, que je connais peu.
Ah, Saint-Parnassien, intéressant.
Ah oui?
Ah oui, oui. Oui, donc, oui. Très, très amusant, hein, très délirant. Dans le pastiche.
Joachim du Bellay, etc. Tous ces auteurs qu'on apprend à l'école ou qu'on lit, la plupart des...
Oui, on les trouve pas dans les manuels scolaires, ces pièces-là, en général.
Et finalement, on pourrait aller plus vite en demandant qui n'a pas, parmi ces célébrités littéraires, écrit d'érotique. Oui.
Alors la grande interrogation, c'est, je le dis un peu dans ma préface, c'est Victor Hugo, parce qu'il y a une ou deux petites pièces, mais qui n'ont pas grand intérêt, qui sont un peu des badineries, alors que nous savons que c'était un homme qui avait des appétits sexuels extrêmement forts jusque dans sa verte vieillesse. Mais au fond, c'est pareil, Christian Chaste. Ce qui est assez surprenant. Mais vous avez, par exemple, puisque vous parlez d'auteurs inattendus, si je me trompe pas, un poème érotique de jeunesse de Jules Verne.
Ah oui, 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 oui.
Lamentation d'un poil du cul de femme.
Oui, oui, oui.
C'est assez étonnant quand on pense que Jules Verne a écrit des ouvrages que lisaient tous les enfants.
Il est dur lorsque sur la terre, dans le bonheur, on a vécu de mourir triste et solitaire sur les ruines d'un vieux cul. Jadis, dans une forêt vierge, je fus planté sur le versant qu'un pur filet d'urine asperge, et parfois un filet de sang. Qui pourrait deviner que, oui, effectivement, voilà, c'est de Jules Verne.
C'est plutôt un joyeux carabin, Jules Verne.
Ouais.
C'est ça, le plaisir, c'est de trouver des choses inattendues d'auteurs, peut-être pas austères, mais enfin qui sont pas réputés pour leur érotisme.
C'est-à-dire que depuis toujours, évidemment, la poésie érotique met en cause l'ordre des choses.
Oui.
Hein, et du coup, le bon goût aussi est remis en cause.
Absolument.
Hein, c'est ça?
Oui, mais c'est très bien.
Hein. Oui, 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 oui. On a des chansons de corps de garde.
Ah oui, il y a la scatologie, il y a un hymne d'un vidangeur qui dit aimer les étrons, etc. Oui, mais bon, pourquoi pas. Et vous avez vu, bon, il y a un chapitre sur ce que j'appelle les homosexualités aussi. Faut bien dire que les anthologies souvent étaient homophobes.
Et misogyne?
Oui, misogyne. Alors, il y a un chapitre sur la misogynie également, parce qu'il y a une poésie érotique qui est misogyne. Il faut pas se leurrer à ce sujet.
J'aime aux pâles beautés tes sourcils surbaissés, d'où semble couler des ténèbres.
J'aime aux pâles beautés tes sourcils surbaissés, d'où semble couler des ténèbres.
Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent des pensées qui ne sont pas du tout funèbres. Tes yeux qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique.
Avec ta crinière élastique, tes yeux, languissamment, me disent
« Si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité. »
amant de la muse plastique.
Et tous les goûts que tu professes.
Et tous les goûts que tu professes.
Tu pourras constater notre véracité depuis le nombril jusqu'aux fesses.
Tu pourras constater notre véracité.
Tu trouveras au bout de deux seins bien lourds de larges médailles de bronze.
De larges médailles de bronze.
Et sous un ventre uni, doux comme du velours, bistré comme la peau d'un bronze.
Doux comme du velours.
Une riche toison.
Une riche toison.
Qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure souple et frisée.
Souple et frisée.
Et qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure.
Et qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure.
Charles Baudelaire. Un jeune amant me rencontra, seulette, dans la prairie. Et tout d'abord, il m'embrassa, d'une façon jolie, me disant « Belle, c'est par là que le plaisir commence !» Et toujours va qui danse. Enflammée par ce doux baiser, soudain sous ma gorgerette, je sentis qu'il osait glisser une main indiscrète. Longtemps, elle s'y promena malgré ma résistance. Tandis qu'une main mesurait de mon sein l'architecture, l'autre, doucement, s'égarait plus bas que la ceinture. J'avais beau de cette main-là réprimer la licence. Mais connaissant que son dessein m'a rendue tout inquiète, le berger retira sa main. La paix fut bientôt faite. Un doigt seulement y resta. Oh, quel doigt quand j'y pense. Anonyme.
Un jour sur le boulevard, je l'ai traversé dans un chevaux, tu faisais passer avec un sourire et tu me dis la place. Ça vous plairait-il que je vous en menace? Bref, je suis montée sans savoir pourquoi. Tu m'as emmenée jusqu'au fond du bois. Tu m'as pris la main sans que je prenne la bouche. Tu m'as pris les cheveux, tu m'as pris la bouche. Dans ces conditions, dame, c'était fatal. Il y avait bien des chances pour que ça tourne mal. Tu m'as possédé par surprise et j'ai l'impression que j'ai dû faire une bêtise. Certes, j'aurais dû dire non, 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 mais voilà, j'ai dit oui, 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 oui. Seulement j'ai peur à présent que tu méprises. Et cependant tu le sais, je n'ai pas fait exprès ce qui est fait, fait, n'en parlons jamais. Tu m'as possédé par surprise.
Vous marchez d'un tel pas, madame, je suis prêt à fondre.
Monsieur, je ne vous connais pas, je n'ai rien à vous répondre.
Que de poils sur votre manche. Oh. Peut-on voir ceux de votre ventre?
Monsieur, vous êtes un cochon, laissez-moi tranquille, je rentre.
Vous masturbe-t-on par devant, madame, quand on vous engueule?
Mais c'était bien, oh là là.
Attends, le micro. Attends, le micro, hop, c'est bon.
Attends.
Vous masturbe-t-on par devant, madame, quand on vous encule?
Dieu, cet homme est énervant. Il va me rendre ridicule.
Madame, j'ai la pine en l'air. J'aurais besoin de votre bouche.
Mais vous êtes toqué, mon cher. À quelle heure est-ce qu'on vous couche?
Allons, nous tirerons 6 coups. Montez chez moi, je vous enfile.
Ah, oh, je veux bien, mais dépêchez-vous. Dans une heure, je dîne en ville.
«
petits poèmes de Pierre-Louis parmi... Pierre-Louis, oui, l'auteur du Roi Pozzol, par exemple, n'a pas écrit que le Roi Pozzol, il a écrit énormément, mais une production extraordinaire de ces petits poèmes tout à fait inconvenants, absolument scandaleux sur une antenne nationale à 17h45. Je partage tout à fait votre point de vue avec toute la tartufferie, l'hypocrisie qui sied et qui a longtemps augmenté probablement le plaisir. C'est Anatole France qui disait qu'on ne remerciera jamais assez la religion d'avoir fait de l'amour un péché. Alors voilà, il y a un plaisir évidemment dans la subversion, dans le paravent, dans le masque, dans la pénombre, dans le suggéré, dans le suscité, dans tout ce que nous, et finalement nous ne savons pas, nous n'en savons absolument rien. Ce qu'on sait, c'est que ça ramène toujours un désordre, le désordre amoureux, et qui n'est jamais nouveau, qui est toujours renouvelé sans cesse, et qui est là, qui nous préoccupe. Si à la fin d'une journée on avait une machine pour compter combien de fois nous avons pensé à ça, combien de temps nous avons consacré à penser à ça, on s'apercevrait qu'on n'a pas pensé à autre chose dans une journée. On est avec Jean-Paul Goujon autour de son livre qui sort, Anthologie de la poésie érotique chez Fayard. Comment on a écrit ça? Comment ces auteurs ont-ils écrit ça? Vous allez me dire, il y a des tas d'auteurs différents, des conditions.
Ce sont des poètes. Je pense que, bon, ils ont élaboré leur texte, et même ceux qui semblent des chansons de carabin, des chansons populaires, on voit le jeu des rimes, on voit, bon, c'est pas une grandissime poésie, mais c'est très rare. Je pense qu'ils aient réussi à improviser quelque chose. Certains étaient doués, des gens, bon, comme Apollinaire, sans doute, Verlaine, bon, également. Mais il y a un travail. Et c'est assez paradoxal de penser que ce qui n'est qu'érotisme, que joie, que chose plutôt légère exige un travail.
Votre favori dans tout ça, je suis sûr que c'est un poème de Pierre-Louis.
Ah oui, il y en a un qui est très drôle. 376. Ben je peux le lire si vous voulez.
Voilà, c'est ce que voilà. C'était un peu.
Au bal. Madame, qu'il fait chaud ce soir. Le bal est morne, ridicule. Venez dans ce cabinet noir et souffrez que je vous encule. Vous voulez bien? C'est très gentil. Vos fesses me rendaient malade. La chair forte, le trou petit. Parfait. Vous aimez l'enculade? Oui, pas avec votre mari. Je le comprends. Mais en soirée, c'est votre plaisir favori. Baissez-vous, un peu plus cambré.
Ce qui est extraordinaire chez Pierre-Louis, c'est la production. Il a une production énorme.
Ah, immense, hein. Parce que il a aussi une production, je veux pas dire chasse, mais enfin officielle. Il a écrit, bon, des romans, des contes, etc. Mais la production de surtout de poèmes, enfin de littérature érotique est énorme. On ne sait pas combien il a pu écrire de poèmes parce que beaucoup restent encore inédits, mais plusieurs milliers à coup sûr. Et avec une verve jamais fatiguée.
Est-ce que ça hypothèque sa renommée aujourd'hui d'avoir commis des choses pareilles?
Au contraire, ça l'a rendu plus connu parce que il y a eu de nombreuses éditions et rééditions de ses œuvres. Rééditions effectivement qui, il y a 30 ans, n'auraient pas été tellement possibles, mais qui maintenant se multiplient depuis, je sais pas, 10, 15, 20 ans et qui font que bon, il a cette réputation. Il était déjà considéré comme un libertin, mais maintenant on considère comme un maître de la littérature érotique.
Dada. Et je leur montre entre mes fesses un brin de réséda. Espérez que bientôt toutes les aubépines fleuriront sans succès la haie et les buissons, et que vos mains tiendront au lieu de fleurs
l'épine, fraîches et roses de tous les verts garçons. Lettre de Marie de Régnier à son amant Pierre-Louis.
Et dire à papa, sors ta pine pour que je me la plante au cou. Je bois du foutre à la chopine, je me fais gousser par ma sœur et souvent je me branle encore. Mais peut-être que le bonheur est dans les choses que j'ignore. Pierre-Louis.
Est-ce que, Jean-Paul, est-ce qu'on trouve une production analogue dans toutes les cultures?
Écoutez, il y a une littérature qui se rapproche un peu de la littérature française à cet égard érotique, c'est l'italienne, parce que il y a un peu une tradition ininterrompue depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle, et l'un des plus grands poètes érotiques de tous les temps, c'est le Vénitien Giorgio Baffo du XVIIIe siècle, qui est absolu. Il ressemble à Louis un peu. Il est hilarant. Rien que les titres de ses poèmes sont à mourir de rire. On a publié dernièrement, je crois que c'est chez Zulma, une traduction. Il y a par exemple différence entre Descartes et l'auteur. Alors c'est en vers, hein, je paraphrase. Descartes dit je pense donc je suis. Moi je dis je fous donc je suis. Tout est comme ça.
Jean-Paul Goujon, vous vivez en Espagne, vous enseignez à Séville. Oui. On trouve une poésie érotique espagnole.
On la trouve ancienne, mais qui a été très cachée parce que extrêmement réprimée par la société et surtout par l'Église qui est restée toute puissante jusqu'à au milieu du XXe siècle. Alors il y a surtout au Moyen Âge et au XVIe siècle, il y a quelques poèmes qui ont été publiés bien après effectivement. Mais ce n'est pas comme en France parce qu'en France il y a une tradition puisqu'en Italie encore ininterrompue puisque vous avez vu dans mon livre il y a certains poèmes qui datent de 1450-1480, le 15e siècle, la fin du Moyen-Âge, jusqu'à nos jours.
Jusqu'à Jean Genet, vous arrêtez à Jean
oui,
Genet.
Oui, parce que j'ai dit que oui, l'admirable...
Un assassin si beau qu'il ne fait pas lire le jour.
Ah oui, ça c'est
magnifique.
Ah, c'est son chef-d'œuvre poétique.
Ah, quitter au matin ton corps d'ambre et de lait, plus flexible qu'un fauve heureux qui se couche, emportant la saveur de l'amour dans ma bouche.
Pour foutre quelque peu, vous en serez plus belle. Les prés bien arrosés rapportent plus de fleurs, les champs bien moissonnés rendent plus de fruits mûrs. Quand la blonde Cérès met son blé en javel, foutez, belle Chloris. Ainsi la grande Cybèle, généreuse, engendra du monde les seigneurs. Sans cela, que vaut l'or? Que valent les honneurs? Que vaut cette vertu que l'on rend immortelle? Le doux branlé du ciel, produit par les saisons, les verdures, les grains, les raisins, les glaçons. Le plaisir de l'amour est souverain remède. Jouissez donc, Chloris, de vos belles amours. Celle qui n'en jouit point est ingrate à ses jours. Laissez dire ces sots qui n'ont point le vie raide. Anonyme, 1620.
Les petites filles qui relèvent leurs robes et se branlent dans les buissons ou dans les musées derrière les Apollos en plâtre, pendant que leur mère compare la queue de la statue à celle de son mari et soupire « Ah, oh, si mon mari lui ressemblait !» Louis Aragon ou Benjamin Perret. À l'aurore, au petit matin, livré aux songes et aux mensonges, ouverte aux baisers clandestins, sa moniche couleur d'orange,
évoquait un cratère éteint. Guillaume Apollinaire.
Merci à nos deux formidables comédiennes, Sylvie Gravagna et Florence Bott. Merci à Jean-Paul Goujon. Je rappelle encore une fois son bouquin qui sort chez Fayard, Anthologie de la poésie érotique. Anthologie de la poésie érotique, et voilà tout.
Deux dames près d'une rivière parlaient d'amour et de son jeu. Il est beau, se dit la première, mais le plaisir dure trop peu. Et puis l'action ordinaire est si sale après la façon. Ma foi, répondit la dernière, court et vilain, mais il est bon. François de Ménard, 1620.
Or, en dansant, elle s'approche, elle gambille, elle ricoche, elle vole comme un fétu. Dans ses étranges pirouettes, elle branle des castagnettes faites de couilles d'un pendu.
Comme un écolier se jouait avec une belle pucelle, pour lui plaire, bien fort louait sa grâce et beauté naturelle, les tétons mignards de la belle et son petit cas qui tend vous. « Oh, monsieur, ah donc !» se dit-elle, « Dieu y mette ce qu'il y faut !» Clément Marot, vers 1540.
C'était Daniel Mermet dans une nouvelle diffusion de l'anthologie de la poésie érotique. À la technique ce soir, il y avait Bénédicte Roy et Jean-Philippe Jeanne. Réalisation Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37 ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com. France Inter, il est bientôt 18h. Voici Charivari avec Frédéric Bonneau.